Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors, chers auditeurs de France Inter et du monde entier, vous l'avez compris, je ne me lasse vraiment pas des concertos et j'espère bien que vous non plus. Nous commencerons donc cette nouvelle émission par le piano et le deuxième concerto de Beethoven, qui est en fait le premier. Enfin, le deuxième édité, certes, mais le premier composé. Et nous écoutons ce joyeux final joué par Steven Lubin sur un étonnant pianoforte, une copie d'un instrument conçu par Anton Walter en 1795, une mécanique d'une grande puissance pour laquelle les premiers concertos de Beethoven ont été écrits. La virtuosité roborative du final du deuxième concerto pour piano de Beethoven nous délivrait de toute peine, de tout chagrin, de toute tristesse. Nous écoutions le pianiste américain Stephen Lubin au pianoforte et l'Académie de musique ancienne dirigée par Christopher Hogwood. Et pour nous maintenir en joie, voici maintenant un autre final, truculent, plein de surprises, le cheval de bataille du regretté Maurice André. Je pense bien sûr à celui du concerto pour trompette de Joseph Haydn, sa dernière œuvre pour orchestre, écrite à l'âge de 64 ans. Et nous allons profiter de la sonorité dorée de la trompettiste américaine Alison Balsom, accompagnée par la Philharmonie de chambre de Brême, sous la direction de Thomas Klug. Thank you. C'était le final du concerto pour trompette en mi bémol de Joseph Haydn, interprété par la trompettiste Alison Balsom et les instrumentistes de la Philharmonie de Chambre de Brême sous la direction de Thomas Klug. Le compositeur italien Giovanni Bottesini doit sa formidable carrière d'instrumentiste au hasard. En effet, lors de son inscription au conservatoire de Milan, il ne restait de place qu'en classe de contrebasse. Également reconnu comme chef d'orchestre, Verdi le choisit pour diriger au Caire la première d'Aïda. Surnommé le Paganini de la contrebasse, il a joué un rôle important dans l'évolution de son instrument, pour lequel il a écrit le magnifique concerto que voici. C'était le final du deuxième concerto pour contrebasse de Giovanni Bottesini, une œuvre datant de 1845, enregistrée avec brio par le contrebassiste américain Edgar Meyer, lui-même auteur de deux concertos pour contrebasse. Et Edgar Meyer était accompagné par les instrumentistes du Saint Paul Chamber Orchestra, dirigé par l'américain Hugh Wolf. Et nous restons en Italie avec une œuvre énigmatique d'un certain Domenico Caudioso, l'un des concertos pour mandoline les plus joués du répertoire. Alors pourquoi énigmatique ? Bon, pour la musique, assez typique de la naissance du style galant du milieu du XVIIIe siècle, mais pour son compositeur, dont personne n'arrive à trouver la moindre trace, au point que certains musicologues pensent que ce beau concerto pourrait être du napolitain Domenico Cimarosa, lui nettement plus repéré. Et pour une fois, je colle à l'actualité, puisque je vous en propose une interprétation récente sous les doigts du Toulousain Julien Martineau, accompagné par les cordes du Concerto Italiano, sous la direction de Rinaldo Alessandrini. C'était le troisième mouvement du concerto pour mandoline de Domenico Caudioso, un extrait de l'album Come una volta, paru récemment chez Naïve, album consacré au concerto italien pour mandoline et orchestre, dans lequel vous retrouverez avec le plus grand plaisir, outre le concerto de Caudioso, ceux de Calace et de Vivaldi. C'est cette même maison de disques, Naïve, qui a joué un rôle décisif pour la connaissance et la diffusion de l'œuvre de Vivaldi avec son intégrale raisonnée et documentée du célèbre compositeur vénitien. Et je ne résiste pas une fois de plus au basson de Sergio Azzolini pour un concerto à l'ascension particulièrement roborative.
Thank you.
Nous écoutions le concerto pour basson en la mineur de Vivaldi par le bassoniste italien Sergio Azzolini et les instrumentistes de Laura Soave Cremone. Mon avant-dernière proposition de cette preuve par Z consacrée au concerto concernera le cor. Enfin, quand je dis le cor, je ferais mieux de dire les cors, puisque j'ai choisi de vous faire entendre maintenant le premier mouvement du Concertstück pour quatre corps et orchestre de Robert Schumann, qui considérait cette pièce comme l'une de ses meilleures œuvres. C'est une œuvre à la fois héroïque et tendre, passionnée, d'un irrésistible élan. Les quatre corps s'élancent vers le ciel. Thank you. Nigel Black, Peter Blake, Lawrence Davis, Lawrence Rogers et la Philharmonie Orchestra sous la direction de Christian Tillman interprétaient le premier mouvement de la pièce de concert pour quatre corps et orchestre de Robert Schumann. Et nous terminerons l'émission par un tube qui est en même temps une curiosité puisqu'il s'agit du célèbre final du concerto pour violon de Beethoven, mais dans sa version pour piano et orchestre. Une transcription effectuée par Beethoven à la demande de son ami Clementi, un pianiste virtuose et un compositeur très apprécié des Viennois, mais aussi un grand éditeur de musique. Et comme vous allez pouvoir le constater, l'œuvre est aussi convaincante au piano qu'au violon.
Thank you.
Nous écoutions le final du concerto pour violon en ré majeur de Beethoven dans sa transcription pour piano et orchestre par le pianiste autrichien Gottlieb Wallich qui jouait sur un pianoforte viennois de 1825. L'orchestre de l'Académie de Vienne étant dirigé par Martin Hasselböck. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec David Delpech et Dorian Segre. Chef opérateur du son, Philippe Mercher. À la semaine prochaine.